Le grenier à son, la mémoire sonore en Royan-Vercors. Suite du document sonore à propos de la balade patrimoniale autour de l'industrie textile à Saint-Jean-Royan, pour nous accompagner pour cette deuxième et dernière partie le long de la rivière Lyonne à travers ce patrimoine industriel et naturel, l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui, compagnie notamment de Dominique Barbier et Marie-France Faure, le CPE Vercors, Noélie Ortega, et Olivier Bialakoff, chargé de mission eau au sein du parc naturel régional du Vercors. On retrouve des similitudes des fois entre le canal de la Bourne et les canaux sur le secteur, les problèmes d'usage.
Le canal de la Bourne, lui, il prend vraiment une quantité d'eau énorme qui est complètement exportée. Donc les 6,5-7 mètres cubes secondes du canal de la Bourne, ils sont exportés sur la plaine de Valence.
Alors que là, ça revient dans le cours d'eau, la différence par rapport à la Lyonne, par exemple.
Alors la Lyonne, ça revient dans le cours d'eau, c'est quand même... Ça ne revient dans le cours d'eau que aux étangs communaux. Donc on va quand même d'Auriol jusqu'à l'aval de Saint-Jean court-circuiter la rivière et lui prendre de l'eau pour tous ses usages. Donc après, c'est une histoire d'équilibre. C'est justement pouvoir... répondre à ses besoins et tout en prenant en compte le fonctionnement de la Lyonne. D'où notre conflit avec EDF il y a quelques années dans le renouvellement de la concession du barrage de Bouvante, où EDF avait traduit des textes de loi d'une certaine manière qui en gros pour eux leur permettait de ne plus laisser d'eau dans la rivière, donc de tout prendre ce qui est arrivé en amont du barrage, et de turbiner ça à l'usine hydroélectrique de la Plaine. Donc ça faisait court-circuiter les gorges de la Lyonne, donc 6,5 km de rivière. Donc quand on connaît un petit peu ce milieu, on sait qu'il y a quand même... c'est un réservoir biologique, c'est un cours d'eau qui est reconnu comme étant le lieu de vie d'espèces protégées aussi.
Vous êtes un peu aussi une sentinelle en ce qui concerne la vigilance sur les cours d'eau, des fois pointés du doigt, ce qui peut dériver quelque part aussi.
Oui, alors on peut avoir une grosse pollution ponctuelle, je dis n'importe quoi, une cuve de fioul qui perce et on va avoir une pollution, une grosse quantité de fioul une fois dans le cours d'eau, mais on peut aussi avoir des pollutions diffuses, chroniques, permanentes. Elles peuvent être de différentes natures, hein, ces pollutions. Alors là, on est sur quelque chose de type pollution chimique dans ce que j'évoque, mais on a aussi des pollutions mécaniques. La morphologie du cours d'eau, sa capacité à déborder, sa capacité à éroder, tout ça, c'est des choses qu'on regarde et on préfère que ça érode à un endroit où on a prévu que ça érode et que ça n'érode pas une pile de ponts qui est utilisé par la communauté. Donc en fait, l'idée, c'est de comprendre comment tout ça fonctionne et de répondre à la fois aux exigences du cours d'eau qui, lui, de toute façon, va chercher à dépenser son énergie. Et on ne peut pas être uniquement dans un regard hydraulique du cours d'eau. Il faut qu'on prenne en compte la dimension...
Morphologique, oui, tout ça composant.
Morphologique, vivante, mais du coup historique, sociale et culturelle. Et ça, c'est quelque chose qui est très complexe, parce que finalement, tout le monde parle de l'eau, tout le monde a un avis sur l'eau. Mais quand on commence à gratter le sujet, on se rend compte qu'il faut être interdisciplinaire et c'est compliqué.
C'est un équilibre très fin, en fait.
Voilà.
Plein de thématiques.
Ouais.
On regarde la prise. La prise, j'ai pas de boule. Alors. Donc ici, on a encore cette cascade, hein, puisque sous le pont des planches, on a vu qu'elle n'existait plus, d'autres cascades. Donc c'est un lieu où les gens se baignent encore, hein, mais il faut quand même y faire attention, parce que vous avez des remous sous les cascades. Et à côté, dans la végétation, il y a la fameuse prise Tardy, du nom de Monsieur Tardy. Voilà.
Donc ouais, ce seuil-là, il a été maçonné sur un seuil, en fait. Ce que j'appelle un seuil, c'est une marche naturelle. Donc en fait, avant d'avoir cette prise d'eau à la côte qu'on voit aujourd'hui qui alimente le canal, il y avait déjà une marche dans le cours d'eau par un affleurement de ce qu'on appelle la roche-mère. Donc le caillou, vraiment, quand on a enlevé toutes les couches de sol, on arrive sur le dur. Donc finalement, cette prise-là, et cette partie-là de la rivière, elle était déjà un peu cloisonnée, quoi. Donc quand on parle d'impact des ouvrages comme je l'ai fait tout à l'heure, il faut, pour être honnête, hein, il faut naturellement rappeler qu'on a des endroits dans les cours d'eau, on a des marches naturelles où la truite elle peut pas remonter, quoi, si on veut faire remonter la truite. Donc souvent, et c'est le cas de la cascade blanche aussi, vous avez, et les castors ils font pareil, ils vont faire un barrage à un endroit où il y a déjà une petite hauteur, ce qui fait qu'il y a moins à faire pour avoir une plus grande hauteur de chute, et une grande hauteur de chute, pour quand on fait de l'électricité, par exemple, c'est plus de puissance. Voilà. Donc, ou alors, c'est faire un usage qui est moins loin, pour avoir moins à récupérer de pente. Donc ici, c'était le cas. Voilà.
On peut qualifier ça de marche naturelle.
Non, mais c'est-à-dire, vous avez une marche naturelle sur laquelle l'homme un jour a dit si on le fait là, notre canal, on est pas mal. Au lieu de faire un ouvrage de 5-6 mètres de haut, on va faire 2 mètres de maçonnerie supplémentaire, mais on a déjà les deux tiers du travail qui est fait en termes de structure. Voilà, exactement. Mais c'est important de l'avoir en tête parce que c'est pour pas avoir un discours anti-prise d'eau ou je veux dire, aujourd'hui on est en train d'araser des seuils parce que la loi le demande, l'agence de l'eau finance aussi des arasements de seuils. S'il n'y a plus d'usage, au pont des planches, il y avait une prise, il n'y avait plus d'usage, ça ne sert plus à rien. Si elle part et que le pont n'est pas en danger, c'est très bien pour la rivière. On n'a plus cette marche, on a une circulation du sédiment, une circulation des espèces sauvages, donc ça c'est très bien. Mais si aujourd'hui, vous me demandez là, de me donner un avis sur l'arasement de ce seuil, parce que imaginez qu'il n'y ait plus d'usage en bout de canal, ça ne va rien changer. On va araser 2 mètres, il y aura encore 4 mètres d'infranchissable. Donc, ce n'est pas la peine de dépenser de l'argent public
pour araser cet ouvrage.
Pour araser cet ouvrage. Donc, il faut toujours mesurer un peu ces choses-là, quoi.
Alors là, on voit bien la prise Tardy. C'est juste en amont de la cascade. Hein.
Et alors là, on change de profil au niveau du cours d'eau aussi. C'est que quand on est dans Saint-Jean à Laval, à partir de la prise, on a un cours d'eau qui est très encaissé, avec des berges assez raides, le cours d'eau est au fond, ça fait un peu des gorges. Donc en fait, c'est un cours d'eau qui garde son énergie, qui est puissant. La plupart du temps, quand il y a une crue dans Saint-Jean, c'est très très puissant. Ici, si vous regardez en face, la hauteur de berge est très faible. Vous avez la route là, bon, il y a beaucoup de remblais ici, là, donc c'est un peu haut. Mais d'ici jusqu'à quasiment, donc maintenant c'est Cordel, monsieur et madame Cordel, le domaine de Flandaine, et puis au-dessus, là, bon, quasiment jusqu'à la prise de monsieur et madame Chola, on a une capacité d'expansion du cours d'eau. Et c'est pas mal parce qu'on est à l'amont de Saint-Jean. Donc en fait, un cours d'eau en crue, quand il s'étale, quand il déborde, il perd son énergie. Et du coup, quand ça arrive dans Saint-Jean, c'est moins violent. Mmh. en amont d'ici, le cours d'eau, il a tendance à resinuer.
Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme d'habitude, on regarde les enjeux. S'il n'y a rien, on fait rien. C'est très bien un cours d'eau qui sinue. Mais si on a un ouvrage comme le canal qui alimente tous ces usages, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qui paye?
Il y a des risques vis-à-vis d'empirement. Ça peut être des pierres qui vont rouler dans le...
Mais là, il n'y en a pas assez des pierres dans ce cours d'eau. En amont, là, depuis 2003, depuis que la prise en Cessie est partie, le cours d'eau, il ne travaille plus de la même manière. Donc, il a remobilisé tous les cailloux qui étaient bloqués dans la prise d'eau.
Il y a eu un
stock. Et puis, il les promène vers l'aval. Mais tout à l'heure, on parlait de là où on était vers le pont des planches, en amont du pont des planches. Et vous me disiez qu'il y avait une incision. Le cours d'eau, il s'enfonçait. Et on arrive sur les marnes. Et finalement, l'eau sur les marnes, bon, c'est un tuyau, quoi. C'est pas très vivant comme milieu. Et ces cailloux-là vont venir regarnir les endroits qui sont déficitaires en cailloux. Mais ce qui se passe, c'est que ça retravaille à la fois verticalement, mais aussi latéralement. Et si vous regardez, là on ne les voit pas bien, mais vous avez un tas de cailloux à gauche, à l'intérieur du virage, et une mouille, une partie en eau, à droite. En fait, en amont, là-bas, il y a des gabions qui ont été mis il y a 30 ans. Et si vous regardez le cadastre, il y a 2 anses d'érosion ici. Là. Donc en fait, cette partie de berge-là, elle est totalement artificielle. Et vous aviez la rivière qui avait tendance à venir gratter ici. Donc ça a été mis pour protéger le pont. Donc, comme toujours, c'est regarder les usages, regarder ce qu'il y a et voir quelle marge de manœuvre a le cours d'eau. Moi, ce que je voulais citer, c'était le canal, quoi. C'est juste que quel compromis on trouve entre la reprise de liberté du cours d'eau et puis les usages associés au canal et la menace du cours d'eau sur le canal. Est-ce qu'on protège la berge? Est-ce qu'on déplace le canal? C'est toutes ces questions-là qui se posent.
Le canal, les canaux, parce qu'il y en a 2 ici, ils sont très bien là où ils sont.
Ah mais je sais pas, ça s'étudie. C'est peut-être moins cher de déplacer un canal que de reprendre une berge.
Mais qu'est-ce que vous voulez reprendre? La berge ici, elle va bien cette berge, à part de menacer le pont.
Ici ça va, mais il faudrait aller voir là-haut.
Ah.
Bon, c'est compliqué. Allô.
Oui.
Allô.
Alors là, on a passé le pont d'Auriol. On est à un endroit où il y a conjointement le canal Chola. Donc au-dessus, 300 mètres en amont, il y a la prise Chola. Et ici, ça se scinde en deux, le canal Chola privé et le canal communal qui longe la route Avenue de Provence, qui retourne à Saint-Jean pour nous. Il y en a sur la Vernaison, il doit y en avoir au bord de la Bourne pour expliquer un peu le fonctionnement de la rivière, les espèces de poissons qui peuplent la rivière, c'est des petits panneaux un peu pédagogiques. Et je crois que ça fait un an qu'ils ont dû installer ça. Et ils ont des bons retours. C'est bien.
Oui, ça intéresse les gens globalement,
ces
petits panneaux d'information.
Apparemment, il y a des bons retours, que ce soit des habitants ou des visiteurs, ouais. Alors c'est des panneaux, c'est très court, hein, puis c'est les mêmes qu'ils ont positionnés sur les différentes rivières du bassin versant, mais ça donne 2-3 billes sur les types de poissons qui vivent dans la rivière et comment les protéger.
de connaître en tout cas le milieu.
Ouais. On est les dernières, nous ?
Voilà.
Bon, bah allez, il faut pousser. Voilà. On va les pousser.
Ah, Marie-France, petite précision. Oui. Si on s'intéresse à la Lyonne, c'est aussi préciser, vous avez édité des ouvrages sur les barrages.
Bien sûr.
C'est donc toujours disponible.
Bien sûr, toujours, toujours. Et puis l'EDF l'a mis en valeur. Tous ces travaux, l'EDF l'a mis en valeur parce que c'est un des rares barrages dont tous les travaux, toutes les infrastructures sont visibles. Le siphon, la cheminée, les prises, les sorties. Tout est visible.
C'est pédagogique
donc,
presque.
Donc, tout à fait, c'est ça. Et il y a un sentier maintenant, sentier de l'électricité, et qui longe tout le long tous ces travaux, depuis le barrage jusqu'à l'usine hydroélectrique.
D'accord. L'EDF aurait débloqué donc des moyens suite à votre intérêt sur ces barrages, pas pour les connaître ?
Je ne vais pas dire. Je ne sais pas si c'est suite à ce que j'ai fait, mais elle s'est servie quand même du travail que j'ai fait pour établir tous ces travaux. Et puis, il est vrai qu'elle a été sensibilisée.
Ça a été un gros travail de recherche pour vous.
Un gros travail de recherche, mais je me suis intéressée surtout au travail humain, à l'impact humain, les personnes qui sont venues de l'étranger, qui sont venues d'autres régions de la France, comment étaient logés les ouvriers, surtout le travail des ouvriers,
social.
Le contexte social. Et puis bien sûr, j'ai été amenée obligatoirement à m'intéresser au côté technique.
Oui.
Puis je me suis intéressée beaucoup au problème des fuites, puisque c'est un des rares barrages aussi construit sur un milieu karstique.
Oui, c'est une exception.
Ça, c'est une exception. Donc ce barrage présente beaucoup, beaucoup d'exceptions en fait, et de premières. C'était un des premiers barrages voûte, etc. Voilà.
Ça a été toute une vie. Alors sur Bouvante, durant la construction, ça a un peu changé la vision sociale qu'on peut avoir maintenant.
Complètement, parce que dans les hameaux, tous les hameaux logés des ouvriers, et on avait en particulier beaucoup d'ouvriers italiens qui arrivaient avec leurs accordéons. Donc le samedi, il y avait des petits bals à Bouvante-le-Haut, au quartier de Rochat, à Bouvante-le-Bas. Et puis il fallait les nourrir. Donc il y a un quartier qui s'appelle l'auberge, parce qu'il y avait une auberge où allaient manger les ouvriers qui construisaient le barrage.
Ils étaient nombreux.
Ah ben il y a eu beaucoup de monde, mais c'était fonction du travail. Il y a eu beaucoup de monde au départ pour construire les tunnels de 4 600 km pour faire passer l'eau. Donc il y a eu, à ce moment-là, il fallait des mineurs, beaucoup de mineurs, des employés pour enlever les gravats. Ensuite, il a fallu aussi des forgerons. Alors ça, c'était les spécialistes, c'était les Italiens qui sont venus pour forger, parce que tous les tuyaux étaient forgés à la main, vissés à la main. Il y avait une personne à l'intérieur du tuyau, une personne à l'extérieur, et on rivait. C'était tout fait, tout à la main.
C'était en quelle année que ça s'est déroulé?
1923-1926.
Trois ans, il a fallu.
À peu près trois ans, oui.
Et tout ça, vous le relatez donc dans un livre qui s'intitule...
Qui s'intitule Un barrage hydroélectrique en milieu rural.
L'existence du barrage, c'était vraiment produire l'électricité.
Alors,
sur le...
la volonté première, c'était en 1910-1920, il y a eu de plus en plus besoin d'électricité dans les usines à Valence, à Romans. Et jusqu'à présent, l'électricité se faisait ce qu'on appelle au fil de l'eau. C'est-à-dire qu'on prenait l'eau, on canalisait la rivière et on avait toujours la même quantité d'électricité produite.
Et on s'est rendu compte à partir de 1920 qu'on avait besoin de beaucoup d'électricité à 8h du matin. À 10h, on n'en avait presque plus besoin, etc. Donc, on a cherché une solution et c'est de là qu'est née l'idée du barrage avec une vanne. Quand on a besoin de beaucoup d'électricité, on ouvre la vanne. Et quand on en a plus besoin, on ferme la vanne.
D'accord.
D'où l'idée des barrages. D'accord.
Donc c'était une demande plus de la plaine finalement.
C'était, bien sûr. C'était une demande qui est venue des usines de la plaine. Ouais. Ouais. Demande qui vient de l'industrialisation. Ouais, c'est vrai.
Voilà, alors là, nous sommes au moulin, je dirais le dernier moulin du coin. L'autre étant vers le Cholet a disparu complètement. Donc ici, il y a encore le toit, les murs, l'emplacement de la roue. Je dirais un très bel ouvrage encore. Et puis, alimenter ce moulin, donc l'arrivée d'eau que l'on voit là, qui est probablement donc issu du canal communal. Donc ici, il y a un déversoir et de l'autre côté, majoritairement, l'eau s'écoule de ce côté. Hein, vous voyez bien, quand on est face au moulin, ça se déverse un temps soit peu à gauche, mais la majorité de l'eau s'écoule à droite. D'ailleurs, on voit bien, elle repart chez les usines Cholin.
L'eau du moulin, elle ressortait par où ?
Là ? Oh, tu lèves cette...
Non, elle arrive par là. Mais pour ressortir, elle ressort bien quelque part.
Elle
devait
ressortir dans le pré, sûrement, ou...
Oh, il devait peut-être y avoir un canal.
Non, qu'elle ressorte quelque part.
Pour la rendre...
C'est la ce qu'elle dit, là.
Oui, mais non, mais c'est là, c'est ça.
Là, c'est l'arrivée de Beyen.
Ah oui, en plus.
Ce canal, il est plus récent que le canal Cholet.
Si vous voulez bien.
Donc, peut-être...
Non. À mon avis, elle allait là-bas. Comme il n'y a plus de moulin, ça devait traverser le chemin qu'on a pris. À mon avis, on a marché dessus.
Olivier.
Alors là, de l'autre côté de la route, ben nous avons les usines Cholin, Cholin Nami, qui ont fermé il y a peu, puisque en 2008. Eu lieu à la fermeture de cette entreprise. Alors elle garde de très très beaux toits en chêne et des beaux bâtiments propriété de monsieur et madame Cholin.
Incroyable, hein ?
Ah ben c'était le temps du bâtiment La Grange, et c'était quand même un temps où les ouvrières logeaient, donc elles partaient de leur campagne. Très tôt d'ailleurs, elles partaient, elles avaient l'âge de 14 ans. Donc au début, c'était les religieuses qui les encadraient. Et elles étaient au dortoir. Donc c'est un bâtiment à plusieurs étages qui n'existe plus depuis peu. Hein. Et ont vécu ici des gens comme Madame Cotte qui a vécu pratiquement toute sa vie dans ce bâtiment. Et ils n'avaient qu'à traverser la rue pour aller travailler. Et il y avait un signal lumineux qui indiquait le début du travail. Donc, à côté de ce bâtiment Lagrange figure le seul artifice maintenant qui est là, propriété de monsieur et madame Cholin, qui est également un des grilleurs. Qui fonctionne, mais qui a besoin que l'on enlève quand même toutes les feuilles qui tombent de façon environnante. Donc, nous l'avons pris en photo avant qu'il y ait ce nouveau toit, puisque finalement, il y a un nouveau toit. Et donc, ça traverse la route pour alimenter la micro-centrale de monsieur et madame Cholin. Voilà. Et le canal communal nous allons le retrouver un peu plus loin. Parce que voilà.
Il est enterré ou non?
Ah là, il est tout là, ouais.
Ah ouais.
Bah, les deux. Alors, nous sommes ici au terrain de rugby de Saint-Jean-Royan et à côté le camping municipal. Et nous voyons un canal qui sort et en fait qui retrouve, on retrouve là le canal Chola privé et le canal communal. Les deux sont là. On continue. Un petit mot. Tout à l'heure, on parlait des berges, des marnes et tout. Eh ben, on les voit bien ici. Hein? Et la Maldina, elle arrive ici. Alors, c'est vrai que quand il y a beaucoup d'eau, ben, ça débite beaucoup. Voilà. Hein? Donc, vous voyez, les galets, les marnes. Mais c'est de la marne assez dure. Hein? Et pas attaquable facilement.
Ça craint le gel.
Oui. Quand même. Avant qu'on fasse du patin à glace sur la rivière, ça va être dur. Et là, ça peut arriver.
On a pas la rivière ne peut pas déborder ici. Donc là, vous voyez les bois. Ben là, ça va, mais quand ça s'accumule, finalement, ça va créer un désordre hydraulique. C'est pas très grave pour la rivière, au contraire même. C'est très bien pour la rivière. C'est de la cache, ça freine les écoulements, ça les diversifie, ça oblige la rivière à faire des virages, enfin, voilà. Donc ça fait des habitats différents, donc ça fait des espèces différentes, donc ça fait un milieu qui fonctionne bien. Par contre, vous avez ça qui va arriver sous le pont des planches, là ça va commencer à nous poser problème. Donc on intervient de manière très sélective sur ce type de problématique. Je voudrais juste faire un petit point à la Maldina de 5 minutes, pas plus. Que c'est un exemple assez parlant de...
la géologie, c'est-à-dire les marnes sont inclinées là, hein, l'inclinaison des marnes.
Donc la Maldina, elle arrive d'Oriol des Belles. Elle fait la séparation entre la commune de Saint-Jean et d'Oriol. Et ce que vous voyez là en accumulation de terre, originellement ça devait être décapé et entretenu. Donc tous les robiniers faux acacias là, et les aulnes qui poussent et les ronces, je pense qu'à une certaine époque, c'était dégagé régulièrement. Il se trouve que les rivières sont plus trop entretenues en termes de végétation. Et quand on le fait, c'est des fois des curages ou des choses un petit peu agressives. Là, je vais juste vous témoigner de ce qui s'est passé en 2008. Septembre 2008, il y a eu des grosses crues. Alors on a surtout parlé de Saint-Donat, mais ici on a quand même reçu pas mal d'eau. Et en fait, il y avait un bouchon de bois qui s'est formé juste avant la chute, là. D'accord. Alors ce bouchon de bois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un petit seuil, à l'endroit où il y a déjà un seuil, mais il a relevé, il a bloqué les sédiments, régulièrement. Donc en fait, c'est accumulé une quantité de sédiments assez importante dans le lit de la Maldina, je pense au moins sur 1 mètre, ou 80 cm. Il se trouve qu'en septembre 2008, il y a eu un gros coup d'eau. Et comme le lit était moins profond, en fait, la Maldina, elle est sortie ici, là.
Sur le chemin.
Voilà, sur le chemin, en rive droite. Et elle est venue manger jusqu'au talus. Elle a mangé tout le chemin qui amène à la passerelle, qui amène sur le stade de rugby. Donc, en fait, ça a complètement affouillé le chemin à cause d'un petit bouchon de bois. 1 mètre cube de bois, pas plus. Donc, en fait, c'est pas que ça. C'est un manque d'entretien lié au contexte. Encore une fois, si on n'avait pas le chemin, pas la passerelle, qu'il y a un bouchon de bois, c'était pas grave. Mais il se trouve que le manque d'entretien à l'amont, a généré ce bouchon de bois, le débordement, l'érosion du chemin. Donc maintenant, je vais vous donner des chiffres. On en a pour 3000 euros d'entretien de boisement à l'amont. La réfection du chemin a coûté 18 000 euros. C'est juste pour vous dire que des fois, quand on prend un peu les devants et qu'on fait de l'entretien régulier, c'est pas forcément une grosse charge financière pour la collectivité. Sachant qu'à la base, c'est pas à la collectivité d'intervenir, maintenant elle le fait de plus en plus, mais que du coup, la collectivité a dû débourser 18 000 euros pour reprendre ce chemin. Alors, en plus, elle a repris ce chemin sur la base du lit qui n'était pas encore, qui n'avait pas retrouvé sa situation originelle. Donc le lit était encore assez haut, donc qu'est-ce qu'elle a fait l'entreprise ? Elle a fait une longue grille béton là, pour mettre la barrière sur ce qu'elle voyait. Et moi j'ai demandé, je me souviens bien au pelleteur, d'enlever ce bouchon de bois. Et en attendant qu'il y ait des pluies pour que la rivière refasse son profil. 15 jours après, on a eu des pluies, ça a remobilisé le sédiment et on a retrouvé les cailloux du lit originel.
Voilà, c'est
ça. Donc finalement, le cours d'eau a repris sa position. Sauf que la reprise, elle n'a pas été faite. On voit que là, c'est perché, que c'est érodé. Donc, à terme, il faut quand même soulager cette berge. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut potentiellement avoir une intervention à la fois sur la végétation à l'amont, au niveau des ronces, des robiniers et des aulnes. Garder quelques végétations un peu hautes pour faire un peu d'ombre, avoir une eau qui reste fraîche. Et en même temps, peut-être dégager aussi cette terrasse herbeuse-là. Pour soulager la berge à droite.
Tout à fait.
C'était, je ne veux pas m'étendre plus, c'était pour vous mettre dans la balance 4000 euros, 18000 euros.
Ah ouais, non, c'est important.
Alors voilà, on l'a évoqué tout à l'heure,
oui,
la Maldina a été utilisée pour ça. Alors chez Monsieur Motet, il y en a une.
Oui.
Et donc ici, il y en avait une autre alors. D'accord.
France, je vous le confirme.
De quoi ?
France Besset. Il y avait je crois que son grand-père ou son arrière-grand-père entretenait une sablière ici, dans cette zone, ça lui appartenait.
Ah, d'accord.
Et France Besset, elle a. Je me souviens qu'elle avait fait couper tous les arbres là. Quand tout ce dossier s'est fait. Et
elle a vendu le terrain là, pour l'aménagement du
parking. Donc c'est un petit cours d'eau qui ne paye pas forcément de mine, mais qui peut faire des gros dégâts. Et
la Maldonne, parce que
compte pour
la
Maldonne.
Quand elle s'y met à rugir, c'est la Maldonne.
C'est toujours intéressant d'avoir le
sur le site, on revient sur le site des usines Albert Brunet, ex-usine Lévis. On retrouve le bâtiment du dedans des propriétaires. Ici, un atelier qui existe encore. Et puis, les toits en chêne ont disparu, mais l'ouvrage hydraulique a réapparu. Voilà. Alors avant, on a la pisciculture qui est alimentée par le canal.
Le centre de vacances qui est fermé d'hier.
À la fois communal et privé. Voilà. Voilà.
Où est-ce qu'on arrive ?
On arrive ici, à la
Perrouse. Bon dos, les chasseurs.
Alors Colette.
Bonjour Colette.
Eh bien je vous attends.
Ah, ça fait un moment.
Merci, on a vous attendu.
Toute patiente, t'es bien patiente.
Monsieur Giraud, il est par là? Eh bien je l'ai vu tout à l'heure et puis là Jean-Paul est allé voir, je ne sais pas. Mais c'est là que ça se tient. Je ne sais pas s'il a envie qu'on aille là-bas.
Pas trop.
Non, pas trop, oui.
L'association Royan des Guérets d'aujourd'hui est heureuse de vous offrir un petit apéritif.
Merci.
Pour vous remercier d'avoir bien marché, d'avoir bien écouté. Et merci Dominique.
C'est pas tout à fait fini.
Ah, c'est pas tout à fait fini.
Alors ici, nous sommes sur l'emplacement d'un canal qui n'est pas apparent, mais qui s'écoule à l'intérieur, là-dessous. Voilà, il y a un canal ici. Et il y en a un peu plus haut qui alimente des bassins de M. Giraud, où la vie détruite. Et vous avez un canal qui est apparent et qui longe les jardins qu'on a vus ce matin. Trois entrées d'eau ici. Donc ça a alimenté également des moulins ici, hein. Une scie à eau. Et ici, on a encore le reste du bâtiment industriel.
Où, la présidente, hein?
Voilà.
Ouh.
Non, mais la présidente.
Un nœud, on peut dire ça comme ça.
3/5 de l'eau qui est dans le canal. En fait, mais il y en a. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais M. Giraud laissait de l'eau à la pisciculture. Donc en fait, il y avait 1/5 qui venait là, sûrement pour faire 1/5 d'entretien. Quand il y a de l'eau qui court, il n'y a rien qui pousse dedans. Qui est le long du pied du mur. Quand on monte la montée des usines, il y a une petite margelle béton et dedans, il y a 1/5. Et un bypass avant la pisciculture.
C'est dommage qu'il ne reste pas les anciens toits et tout.
Il y a du blanc à
feu,
de
le mieux c'est qu'il s'approche.
Alors maintenant,
vous pouvez vous servir.
La table n'est pas très.
Approchez-vous et servez-vous pour ce petit apéritif. Ouais.
C'est sympathique.
Il veut du jus de
Fin de cette balade patrimoniale autour de l'industrie textile et les canaux du Royan. Nous étions au bord de la rivière Lyonne avec la participation de l'association Royan d'hier et d'aujourd'hui, Dominique Barbier et Marie-France Faure notamment, le CPE Vercors avec la participation de Noélie Ortega et Olivier Belakov, chargé de mission eau auprès du Parc Naturel Régional du Vercors. Une émission à retrouver dans son intégralité sur notre site internet radioroyan.fr.